face une coune, on en a fait un ou des beautés, mais qui, à la sur la suggestion de Yoda Mister, est une très bonne idée.
Je retourne au fond de ma classe.
Quel faillot. C'était. Reste pas trop loin parce que tu vas parler en premier. Donc le sujet est quel scénario d'introduction pour débuter avec des nouveaux joueurs à l'appel de Cthulhu. Et la façon de procéder va être la suivante, c'est qu'on va chacun notre tour et à tour de rôle. J'aime bien ça. C'est un tour de rôle et chacun notre tour. Quoi? Elle a que le leu, voilà exactement, en série quoi. Nous allons tous déjà vous donner le scénario qu'on a choisi parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois et qu'on trouve particulièrement adapté. Et puis par des interactions, des jeux de questions-réponses, d'interrogations et de coupures, nous allons nous demander pourquoi nous avons choisi ces scénarios-là. Et vous donner un peu des idées, des conseils, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent sur les talk forums, hein, quand les gens se pointent et que comme ils sont incapables, parce que c'est impossible de chercher sur talk, ils viennent poster la question sur les forums, et je veux introduire des joueurs.
c'est dégueulasse.
Je t'attendais, Steve. Quel scénario dois-je utiliser? On va donc commencer par Yoda, hein, qui nous a été... qui a proposé ce sujet, donc Yoda.
Alors, sans hésiter, le sanatorium du supplément Les Demeures de l'Épouvante.
D'accord. De ton côté, de Marini.
Alors moi, c'est Nocturne pour un violon.
Nocturne pour un violon, un scénario Cassius Belli. Chronique d'Outre-Monde. Non, je sais plus. Enfin, ok. Steve?
Moi, c'était La Course aux Documents. Dans la version 4 de L'Appel de Cthulhu, livre de base.
D'accord. Et pour ma part, j'ai choisi... Une visite au zoo, scénario Cassius Belli. Donc Yoda, je t'ai coupé, mais c'était pour faire un peu l'interactivité. On va commencer par, je dirais, ce qui t'a paru être le gros plus, hein, je veux pas qu'on s'étende, mais le gros plus de scénario pour une initiation, une introduction au jeu. Alors là, on s'entend bien, c'est plutôt une initiation à des joueurs, hein, c'est pas une initiation en tant que gardien. Qu'est-ce qui est le gros plus pour toi du sanatorium?
Le lieu plus, le point super bien, c'est que c'est un lieu clos. Donc, pas besoin de gérer l'entourage, pas besoin de gérer tous les gens que l'on pourrait croiser, le boucher qui va nous renseigner, le vendeur de disques, n'importe quoi. Non, on est dans un lieu fermé, les joueurs sont invités à y venir, et est-ce qu'ils vont y ressortir? Ça, c'est un autre problème.
D'accord, donc pour toi c'était l'unité, c'est vrai que c'est un bon point. De ton côté, toi, de Marini, pourquoi Nocturne pour un violon? Parce que je sais qu'il a été pas mal critiqué, et moi pour l'avoir lu, il est assez compliqué. Mais alors quel est ton gros plus?
Oui, en fait, c'est le fait qu'on se retrouve tout de suite immergé dans l'histoire. Finalement, c'est pas loin du choix de Yoda. C'est-à-dire que les personnages n'ont pas le choix, ils se retrouvent immédiatement confrontés un dilemme et ils doivent absolument le résoudre.
D'accord. Donc finalement, toi, c'est la mise en situation rapide, quoi.
Ouais.
Pour éviter voilà, les à côté. D'accord. Steve, de ton côté, donc pourquoi la course aux documents?
Moi, je l'ai choisi parce que c'est un scénario qui est à la fois concis, court et qui réunit tous les canons propres au genre des scénarios de Cthulhu.
Non, Steve, il faut que tu trouves un gros argument. Quel est ton gros argument? Arrête de raconter plus.
Sors ton gros argument.
Mon gros argument, c'est que ça permet d'emballer de la meuf. Parce que c'est un scénario AMJ, un joueur.
Donc toi, l'argument, c'est en solo.
Tout ça parce qu'il veut baiser des grossesses.
Alors, personnellement, moi, je pense... moi, je verrais plutôt...
Père de famille, alors.
Moi, je verrais plutôt ça comme un désavantage parce que... Enfin, l'appel de Cthulhu, c'est aussi se reposer sur une équipe. Et tu trouves pas ça difficile? Une personne, un joueur, un maître?
Je pense que le gros avantage de ce scénario, et justement ce qui justifie, ce qui fait bien passer la pilule du un joueur, un maître, c'est le fait que le scénario tient vraiment dans un temps très court. C'est vraiment carrément un morceau de scénario, et le fait qu'il y ait un seul joueur évite... de passer beaucoup de temps dessus. Je pense que c'est un scénario qui peut se régler en 2 heures.
Il est assez linéaire, dans mon souvenir.
Il est très linéaire, mais toute l'idée, ce n'est pas. Il y a quelques éléments d'enquête, hein, mais l'idée, c'est aussi de présenter tout ce qui fait le succès d'un scénario de Toulouse, tout ce qui fait le canon d'un scénario de Toulouse.
D'accord. Donc, pour ma part,
l'enquête, etc.
Côté visite au zoo, le gros intérêt, enfin le gros plus pour moi, c'est son contexte. Ça se passe à Paris, en France, dans les années 20. Et c'est un contexte très, je dirais, très classique. Enfin, c'est une mise en situation qui est originale, mais très classique. C'est-à-dire que tout le monde s'imagine l'endroit, les gens. C'est très simple à mettre en place. Donc, c'est pour ça que finalement, après avoir pas mal joué, je l'ai choisi.
Par donc, contre, tu trouves que c'est plus facile hein, que de partir sur l'Amérique des années 20 et faire quelque chose qui se situe en France?
Alors voilà, exactement. Alors, ça peut être à double tranchant parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui connaît bien Paris à cette époque-là. Mais je dirais que pour une première partie à l'appel de Toulouse, je m'extrais des problèmes d'historique et de réalité, de véracité de mon interprétation, parce que le scénario se passe dans un endroit assez particulier, chez des particuliers. Et en effet, c'est le côté France années 20, Paris. Je dis pas que c'est le centre du monde, mais quand même, tout le monde voit à peu près comment c'est foutu, les immeubles et tout ça. Donc, on se met en situation très rapidement, je trouve. Par contre, de ton côté, Yoda, sur ton scénario, qu'est-ce que tu dirais? Enfin, ça va être un peu délicat parce que tu l'as choisi, mais quel est pour toi le défaut de ce scénario-là?
Le défi.
Peut-être le défaut. Le défaut.
Ah, le défaut, pardon.
Allô défaut. Le défaut.
Ouais, ouais. J'aurais dû réviser les questions avant, quand même, c'est sûr.
Quel est le gros défaut? Enfin, s'il y en a un.
Oui, le défaut, ça va être de gérer la fin, puisque je l'ai fait jouer 12 fois.
Ah oui,
12 fois, ça n'a pas fini une fois de la même manière. Et alors, pourtant, le scénario est très simple, fermé, et pour répondre à vos questions, enfin, pas vos questions, à vos informations, il est multi-époque. On peut jouer en 1920, en 1890, à l'heure actuelle, il peut rester d'actualité.
Par contre, alors là où j'ai une question à te poser, c'est que tu dis que son défaut, c'est la fin. En même temps, tu dis que tu as eu 12 fins différentes. Pour moi, c'est pas incompatible. Ouais. En quoi la fin pourrait poser un problème? C'est qu'elle est...
En fait, ce défaut, c'est de gérer cette difficulté-là.
D'accord.
Autant il est très facile à prendre en main. Par contre, quelqu'un qui... C'est là où... le pur débutant qui a besoin d'avoir tout écrit, il va galérer parce que au final la fin reste ouverte, ce qui permet au joueur de faire n'importe quoi parce que la base est très bien posée, mais la fin n'est pas écrite.
Alors moi on peut interagir, hein, c'est un podcast. Moi je lui verrais deux défauts possibles. Alors je sais pas si t'as fait jouer l'arrivée au sanatorium.
Non.
Yoda.
Pardon?
Est-ce que tu as fait jouer
excusez-moi, je l'ai arrivé sur l'île.
Est-ce que tu as fait jouer l'arrivée sur l'île?
Oui, tout à fait.
Ouais. Parce que moi, ça, c'est un premier défaut, c'est que pour des joueurs qui veulent un peu faire du roleplay et tout ça, j'en ai certains qui étaient à deux doigts de pas aller sur l'île. Parce qu'il suffit de mettre un bon orage, une île un peu paumée, un marin un peu bizarre, et je dirais que rien que cette partie-là peut poser souci.
Ah,
ça c'est vraiment qui fait monter la sauce.
Si tu la joues de façon narrativiste, ça passe. J'ai fait de façon description, ils sont retrouvés sur le bateau devant le gros Ebenezer. Je ne sais plus où il s'appelle.
D'accord.
Je pense qu'il ne faut pas faire monter la sauce de l'horreur trop rapidement au début. Il faut plutôt garder vraiment quelque chose d'apaisant, quelque chose de progressif, avec juste une île intrigante, un vieux marin, bonhomme. Si tu y vas tout de suite trop éclair, profond.
Mais alors, Steve, je suis d'accord, mais en quoi une île est intrigante, vas-y?
Déjà, par son relief, son relief très particulier, tu sais que les falaises sont très déchiquetées, il y a des récifs partout.
Ouais, mais ça, c'est et quand ils approchent, quand tu fais la description.
Ce vieux phare éteint, étrange. Et aussi, après, je pense qu'il y a un autre élément mystérieux, c'est toutes les conversations que peut leur tenir Ebenezer sur le trajet et sur les vieux mythes.
D'accord.
Je teste une autre approche. Sur moi, je n'ai pas du tout fait comme ça. La majorité de mes joueurs ne connaissaient pas l'appel de Cthulhu et ne s'attendaient à rien du tout. Les gars sont arrivés en vacances, invités par un oncle. Ebenezer, un mec un peu tordu, vieux loup de mer, pas méchant, arrivé prévu dans l'après-midi, il fait jour, petits emmerdes, ils arrivent au tomber de la nuit, le sanatorium est éclairé, en haut de la butte. Mais écoute, c'est accueillant. Ils ne voient pas de phare, puisque bah, on
sont,
voit pas.
Ils sont quand même invités pour les vacances dans un sanatorium.
Oui, c'est pas fou, hein.
Ouais, mais écoute, ouais, mais tout va bien. Je veux dire, le gars, il sait, bon, c'est un vieil oncle, sanatorium, il n'y a pas de raison que ce soit méchant. Le coin est sympa, ils arrivent, tout va bien. Ils rentrent, il fait jour dans la baraque, enfin, la lumière est allumée, et c'est quand ils rentrent dans l'aile où il y a les patients qu'il y a quelque chose qui va se passer.
Alors, c'est là où on en arrive.
Tu ne fais pas jouer devant la maison.
Devant l'arrivée.
Pardon?
Parce qu'à l'origine, le premier incident se passe quand ils sont juste devant la porte.
Quand ils arrivent, ouais.
Toi, tu les laisses vraiment rentrer. Quoi.
Je veux dire, surprise, effet de surprise, mais pas d'angoisse. Ouais. Ils sont à Saint-Ouen, il y a un mec qui est fou, et puis il y a l'infirmière qui les rassure tout de suite.
D'accord,
excellent.
Par contre,
on arrive sur le deuxième point qui, pour moi, en fait pas forcément un scénario facile, c'est mon point de vue. Hein. Ouais. Mais c'est qu'il y a pas mal de PNJ. Et des PNJ assez particuliers.
Quel éclat.
Non.
Alors, tout à fait, c'est un point très intéressant, parce que j'allais dire qu'au contraire, c'est facile. Dans la mesure où un joueur qui va s'en faire une montagne en disant « purée, j'ai 10 PNJ à gérer, en plus ils ont des personnalités différentes, ils sont un peu dingues, ça va être difficile. » Mais d'un autre côté, comme ils sont tous un peu tordus, le MJ est un peu libre dans l'interaction.
D'accord, la cohérence sont expliquées.
Donc, s'ils se trompent, ben, les joueurs sont fous. Enfin, les PNJ sont fous, et puis s'il y a un truc bizarre, bah, les PNJ sont fous. Mmh. Bah écoute, dans tous les cas, le joueur peut trouver ça bizarre, et puis ça gêne pas. S'il y en a un avec qui il est mal à l'aise, à l'exception de deux ou trois PNJ qui sont importants, il peut les virer.
D'accord.
Ouais. Et en plus, les PNJ sont très très typés, donc on se souvient de leur roleplay assez facilement, je dirais. Je
sais pas d'accord.
Comment est-ce que vous l'avez vécu
Ouais,
ils ont juste leur manière d'agir très, très caractéristique.
Avec ouais, une bonne BO, c'est à flipper, hein. C'est incroyable.
Ouais. Donc, okay, du coup, ça sera peut-être plus difficile, enfin, bien préparé pour le gardien, quoi. Mais après, en intro, les joueurs eux s'y retrouvent très facilement.
Ouais. Oui. Oui, oui. Je suis persuadé, chaque fois que je l'ai fait jouer aussi, je sais pas pour toi, Yoda, hein, mais les joueurs ont tout de suite bien pris leur marque. Se sont bien souvenus des personnages.
Ah ouais, tout à fait. Alors les noms, ils sont peut-être bien trompés, parce qu'au début, je me suis trompé aussi plusieurs fois.
Ouais. Mais c'était genre la vieille folle, la jeune psycho, le taré.
Exactement. Ça. Et le vieux
qu'on va laisser crever dans sa chambre. Oui.
Ah, puis oui, ouais, non, il y a des recoupations à faire. Le Benenzer qui crève, ouais, il est mort dès le départ. Hein.
Ah non, je parlais du vieux, c'est le colonel. Systématiquement, le joueur l'oublie dans sa chambre et il crève.
Donc, messieurs, revenons à nos moutons. Du côté de Marigny, Nocturne pour un violon, parce que quand on suit ce qui s'est dit sur les forums, c'est pas un scénario qui paraît assez facile. Pour ma part, je l'ai lu. La mise en scène est pas facile. C'est, dans mon souvenir, c'est rapidement un peu onirique, un peu biscornu, non ? C'est pas une difficulté ?
Non, justement, moi je trouve qu'au contraire, ça permet l'immersion immédiate. Enfin, c'est. Moi j'aime bien la formulation de Lovecraft qui disait comment c'est fort. Et là du coup on met tout de suite dès le démarrage les joueurs dans l'ambiance. On est dans un jeu d'étrange, de bizarre, d'horreur. Ils sont immédiatement confrontés à ça et ils n'ont pas d'autre choix que de poursuivre, d'enquêter, de comprendre et d'aller jusqu'au dénouement.
D'accord.
Donc c'est très, je pense que c'est
ça force à avancer, quoi.
Voilà, ça les force à avancer, ça les force à découvrir des choses qui peuvent aussi leur donner envie de fuir. En revanche, aussi ce qui est intéressant, je trouve, dans ce scénario, c'est que juste il est pas linéaire, donc on a la possibilité, on a 3-4 pistes, on est un peu obligé de faire le tour, mais on n'est pas obligé de les suivre dans un ordre précis. Donc ça permet une liberté immédiatement aux joueurs. Et ensuite, par contre, après, le gros défaut de ce scénario, c'est que la fin peut s'avérer cataclysmique. Et comme j'ai fait jouer plusieurs fois, il m'est arrivé d'avoir un groupe où tous les investigateurs sont morts.
D'accord. Ouais. En même temps, ça peut être une bonne intro. Leur montrer le côté meurtrier de l'appel.
Tout à fait. Et là, on accède enfin, à vraiment la totalité, je pense, notamment la partie investigation de l'appel. Tout est présent parce qu'il faut aller fouiller un petit peu partout. Il y a un professeur d'université, il faut aller se renseigner sur ses travaux. Il y a des gens dont on peut aller se renseigner à la mairie pour regarder les archives, etc. Et après, il faut vraiment ensuite se rendre sur place dans deux, trois lieux pour investiguer et interagir avec des gens. Ça se passe à Arkham. Hein. Avec des gens de l'asile d'aliénés, des choses comme ça. Bon, bien évidemment, pour se faire refouler. Mais ça montre, on peut tout de suite jouer sur les petits mécanismes de corruption.
C'est-à-dire qu'avec ton scénario, on arrive rapidement dans un standard tullien où, avec le scénar de Yoda, on est plus dans un peu plus original quand même.
Oui, je pense, ouais, effectivement. On est vraiment dans du standard tullien classique. Année 20, Arkham, un petit peu d'horreur du fantastique tout de suite dans les mains. Et voilà.
De ton côté, bon, en fait. Steve.
J'ai une question avant, on aura une question pas. Dem, justement, on parle de scénario, j'allais dire, de débutant. Est-ce que ce cadre qui est si propre à l'appel n'est pas difficile pour un joueur débutant, à savoir qu'il faut qu'il absorbe une partie d'Arkham, l'ambiance, la multitude des PNJ, des joueurs qui sont un peu curieux vont aller chercher sur plein de sources d'informations différentes, ça fait quand même pas mal de boulot pour le gardien.
Ben, en fait, oui et non, parce que c'est tous des éléments classiques en fait qu'on retrouve dans beaucoup de scénarios de l'appel, en définitive. Donc après, je pense que surtout, il faut pas notamment par rapport à Arkham, il faut pas rentrer déjà dans le détail de la ville, rue par rue, et il faut vraiment que ce soit quelque chose de naturel.
Voilà, ils connaissent pas Arkham, donc de toute façon, il leur faut juste une impression de ce qu'est la ville, et pas rentrer vraiment dans les détails. En plus, les personnages ne sont pas censés être originaires, eux, d'Arkham, ils sont censés venir de l'extérieur, ce sont des touristes.
D'accord, ouais.
Voilà, donc on reste vraiment sur du basique, les gros bâtiments, est-ce que je peux prendre le bus ou pas, et puis ensuite, vogue la galère.
Donc ok, on peut s'en sortir. De ton côté, donc, Steve, toi, ce serait quoi le point noir, quelque part, de la course aux documents?
Disons que c'est le défaut de sa qualité, c'est-à-dire qu'on y joue seul, et pour un premier scénario de Toulouse, je pense que ça peut quand même être intéressant de jouer avec plusieurs investigateurs, parce qu'il y a réellement une thématique de collaboration dans le jeu.
D'accord, toi, d'accord. Le souci, c'est que finalement, ouais, le premier test, c'est en solo, et que ouais, ça peut ne pas donner une vraie image de ce que seront les parties après. Quoi.
Ouais. On y gagne en ambiance, on en perd en relation entre les personnages.
D'accord. C'est pour toi, ça reste plus un scénario d'introduction au jeu de rôle en général ou plus un scénario d'introduction à Toulouse, en ce sens que comme tu es en solo, si c'est un joueur qui a jamais fait de jeu d'horreur, tu vas lui foutre les miquettes, quoi, et donc tu vas bien réussir à lui expliquer par le détail ce que c'est qu'un jeu d'horreur.
Ouais, en fait, je vais dire les deux, mon capitaine, avec une nuance, c'est-à-dire que pour moi c'est une excellente introduction pour l'appel de Toulouse, mais ça m'est déjà arrivé de proposer une partie d'introduction générale à des gens qui n'avaient jamais joué au jeu de rôle, et tout de suite dans la foulée de leur proposer, s'ils étaient disposés, à faire une toute petite partie très courte pour leur faire découvrir ce que c'était l'appel de Toulouse. Et généralement, comme les gens sont assez enthousiasmés quand ils viennent en général, ça leur permet derrière d'avoir tout de suite une vision. Waouh, alors ça c'était cool, ah ouais, c'est vrai, c'est différent. Et comme ça, on imprime tout de suite l'idée des différentes saveurs du jeu.
D'accord. Ouais. Ouais, donc quand même, pour moi, une grosse limitation, c'est le fait que voilà, c'est 1-1. Et... Juste, je me rappelle plus, c'est conseillé de jouer à un joueur, un gardien.
Ouais, si tu veux, le sous-titre, c'est une aventure pour un investigateur.
D'accord,
et le gardien.
Je ne me rappelais plus. D'accord, ok. Donc ouais, c'est vraiment conseillé. Bon, moi, de mon côté, pour une visite au zoo, je dirais que le souci principal, c'est la fin. Parce que la fin, autant le scénario lui-même peut être très feutré, très enquête, très début du siècle, autant la fin, si alors bon, en même temps, ça va révéler vos joueurs, mais la fin peut devenir un gros carnage débile. Ça veut pas dire qu'ils ont une armée entière à leur pogne et qu'ils sont truffés de bâtons de dynamite et de Thompson, mais. S'ils abordent mal la fin, s'ils comprennent mal le côté un peu discret, en pleine ville et tout ça, ça peut devenir n'importe quoi. J'ai déjà vu, parce que surtout que voilà, on tombe sur des monstres qui sont pas forcément cthuliens, qui peuvent, s'ils sont mal inclus, tomber dans le grand guignolesque, et là on va tomber dans je dirais un peu dans la bataille rangée, ce qui peut être dommage. Et je dirais que c'est la partie à bien préparer, c'est la fin, parce que j'ai eu pas mal de soucis. L'enquête en elle-même se déroule très bien et puis c'est assez sympa, il y a des balades dans Paris, dans les parcs et tout, mais la fin peut être un risque, parce que autant le début est très original par rapport à du Cthulhu classique, autant la fin, ouais, c'est non. Les souvenirs me reviennent et j'ai eu pas mal de fins assez pourries.
Donc,
Oui.
Eli, du coup, j'aurais presque te demander si tout le monde est d'accord, sauf si on a des questions sur ton jeu. Qu'est-ce que tu as un conseil à donner pour réussir et profiter pleinement de ce scénario?
Ouais, mon conseil, c'est récupérer un plan d'un quartier de Paris que vous aimez bien, près d'un parc, de préférence près d'un zoo, hein, parce que ça s'appelle une visite de zoo. Et pour moi, le gros truc avec des joueurs débutants, déjà, ça fait une super aide de jeu. Si vous leur calez un plan que vous avez tiré genre en A3 ou en A2, puis c'est facile, hein, vous prenez un plan Google Maps et puis vous retirez les choses qui, enfin les points actuels, mais vous en foutez, hein, moi je vous laissez le métro comme il est et tout ça. Mais un plan, vraiment un plan très sympa, parce que je dirais que autant les personnages sont bien caractéristiques, autant les lieux sont bien décrits, enfin le scénario est vraiment bien foutu. Autant voilà, quand on dit ils vont chez la boulangère qui est au coin de la rue, ils vont chez machin qui est 2 pâtés de maison plus loin, à moins que vous soyez déjà un excellent gardien et que vous ayez en face de vous des joueurs qui savent très très facilement se représenter un environnement 3D rien que par une description, un bon plan posé que vous pourrez laisser pendant toute la partie, pour moi c'est l'élément clé qui peut vous permettre de rendre ce scénario-là vraiment plus sympa, parce que voilà. Une course-poursuite avec un vrai plan, bah voilà, on tourne pas à droite tout de suite parce qu'on voit bien qu'il y a un pâté de maison. Ça, pour moi, c'est un gros plus, le plan. En plus, c'est trouvable, hein, parce que c'est quand même Paris au début du siècle. Donc, pour moi, c'est le gros plus. Mais c'est une bonne remarque, toi, de ton côté, Yoda. Qu'est-ce qui ferait que c'est l'élément qui en ferait une réussite assurée?
Alors,
Enfin,
évidemment,
aimé.
donc, télécharger les aides de jeu qui sont sur TOC, il n'y a pas grand-chose.
Ça va sans
Il y
dire.
a un plan et deux, trois entrefilés façon écriture manuscrite qui sont nécessaires. Et derrière, alors par contre c'est du spoil, hein, donc amis joueurs, passez votre chemin.
Bah déjà, on leur a un peu grillé le début de 4 scénars.
Ouais. Alors Steve, je serais intéressé que tu répondes à ça. Donc mon arrivée, donc narrativiste, hein, les joueurs arrivent sur l'île. Ok, ils ont papoté avec Ebenezer, il est bizarre mais sympathique. Quand les joueurs arrivent, Ebenezer se propose de monter leurs bagages. Ils sont quand même en vacances, lire. Surtout que le temps qu'ils rangent le bateau, il les rejoint avec les bagages, pas de souci. Sauf qu'une fois que les joueurs, une fois que les ennuis commencent, lorsque les joueurs sont entrés dans le sanatorium, Ebenezer n'arrive toujours pas. Les joueurs finissent par être obligés d'aller voir ce qui se passe. Ils descendent de la falaise, la nuit, sur un ponton où les vagues se fracassent, et ils découvrent le corps gisant sans tête sur les planches. L'embarcation a disparu, les amarres ont été tranchées à la hache, ensanglantées. Et là, c'est l'éclair. Donc vous appuyez sur l'application Soundboard de iPad.
Mais ta
Et
question
là,
pour Steve?
la question principale, c'était comment il a fait jouer son arrivée?
Comment il fait jouer l'arrivée de qui? J'ai pas trop compris.
L'arrivée, alors comment
L'arrivée
il
des
a fait jouer
joueurs.
les joueurs sur l'île North
Ah
Island?
oui. Oh ben, si tu veux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je les ai vraiment emmenés vers un petit voyage pépère, avec juste une petite dose de mystère, mais tu sais, pas un mystère angoissant, comme tu disais tout à l'heure, mais vraiment quelque chose d'un peu féerique. Les histoires de sirènes que raconte Ebenezer, la silhouette de Nord Island qui se détache dans le fond noir de l'océan, et aussi, quelque part... l'ambiance toute particulière du halo de lumière lancé par le sanatorium. Donc, si tu veux, j'en ai fait une expérience un petit peu qui leur sortent de leur quotidien, parce qu'ils ont quand même une vie très réglée. Et puis, donc, du coup, quand ils arrivent sur l'île, ils ont encore une espèce de sentiment de quiétude. Et en même temps, j'ai essayé tout doucement de leur suggérer qu'il faisait froid, il faisait moite, que le ponton était glissant et qu'il faisait assez noir, assez sombre, et qu'ils avaient la seule source de lumière, parce que Ebenezer était habitué à amarrer son bateau dans l'obscurité. Ce qui fait que comme ils sont ensemble et qu'ils se connaissent un tout petit peu, ils préfèrent plutôt tous aller vers le sanatorium et ne pas rester sur place. Si c'était ta question, en tout cas, généralement, enfin sur la dizaine de fois que j'ai fait jouer, ils vont tous jusqu'au sanatorium.
Ok, bon bah écoute, merci pour l'explication.
Mais ça n'a pas répondu, Yoda, toi, ton gros plus pour réussir le
scénario. Ouais,
ah, moi, c'est assurer l'entrée et faire basculer, par la description que j'ai faite, faire basculer dans l'horreur tout d'un coup, dès qu'il découvre le corps de Ebenezer.
D'accord.
Mais en fait, je pense que l'horreur, si tu la mets à l'intérieur du sanatorium, je pense qu'ils vont zapper Ebenezer. Parce que moi, c'est ce qui arrive souvent, ils zappent Ebenezer pendant très très longtemps. Et ensuite, quand ils retournent et qu'ils disent « Bon, maintenant, on se barre », eh ben, ils voient Ebenezer mort, et là, c'est la cerise sur le gâteau, quoi.
Alors...
Mais n'oublie pas qu'il y a l'infirmière, il y a Ames, je crois qu'elle s'appelle comme ça, avec son... disons, dans la posture où elle se trouve, peut suffisamment suggérer l'angoisse horrible, et de la même manière pour le gars qui se trouve dans l'aile des patients, juste au niveau
du
bureau.
En fait, je vais juste parler de stats sur le nombre de fois où j'ai fait jouer, ça a toujours été pareil. Ils sont rentrés dans l'aile des locataires, enfin voilà. Ils ont poussé la secrétaire, en fait, qui, sur le coup, je n'ai pas fait un coup tordu, je lui ai fait, donc elle est assise à son bureau, et au moment où il la touche, parce qu'elle ne répond pas, elle s'avachit sur le bureau et elle a un énorme couteau planté dans le dos. Basculement dans l'horreur. Et là, tous, il y en a toujours un qui a son flingue dans les bagages. Toujours. Et comme ils sont partis sans leur bagage, ils vont direct voir Ebenezer pour le bateau. Plus de bateau, plus de bagages. En général, ils perdent une arme sur deux. Et là, c'est la merde. Et ils flippent. Et là, ça bascule parce qu'ils sont quand même partis en vacances. Donc, les bagages. Je les ai toujours tenus par les...
Oui. Alors, tu sais comment tu peux les empêcher de sortir? C'est en faisant rôder l'infirmier à l'extérieur et genre faire un face-à-face avec un joueur qui regarde distraitement vers une fenêtre et tout à coup, la tête de l'infirmier complètement folle qui le regarde à travers un carreau et il a clairement une hache ou un couteau à la main et ensuite il disparaît. Et alors là, on a un joueur complètement fou comme ça. Oh, regardez, là, j'ai vu quelque chose! Et tous les autres personnages.
Avec l'éclair qui frappe à ce moment-là. Très,
voilà.
Très bon.
Et après, là, on a le flip du moi je ne sors pas, il y a un mec taré dehors qui a peut-être une arme, je ne sors pas.
Mais enfin vous y allez vachement fort hein, parce que enfin moi quand je l'ai fait jouer c'était pas Scary Movie hein, mon truc, c'était le moment où ça bascule en réalité à chaque fois c'était très doux, c'est un moment souvent de recherche ou alors une discussion comme ça, c'est vraiment le moment où ils comprennent par mots voilés que la nana qui les a accueillis n'est pas du tout la secrétaire, enfin, n'est pas du tout une infirmière. Et là, moi, j'ai vu le regard.
La manière dont on amène tout ça, c'est super intéressant.
Parce que, enfin, moi, un mec, un éclair, avec vos trucs de cinéma, là, quand monsieur Steve disait que Del Toro, il faisait du grand spectacle, le coup de l'éclair, et hop, ça disparaît. Oh, non,
il n'y a pas de robot sur mon île.
En plus, après, il est mouillé, s'il re-rentre, il faut qu'il soit encore humide et tout, tu vas te faire chier avec des détails, avec des mecs qui peuvent être... Alors que la nana...
Il pleut pas à l'extérieur.
Bah, si t'as mis des éclairs, c'est possible qu'il pleuve.
Mais il n'y a pas d'éclair.
Ah si, moi,
il y a des éclairs. T'as eu une version. Moi, j'ai parlé d'éclair au moment où il a parlé de... où on voyait le visage du fou.
Moi, il pleuvait, moi.
Moi, il pleuvait pas.
Parce que, honnêtement, le truc, c'est pour ce genre de scénario-là, pour qu'il dure un petit peu, parce que si tu vires dans l'effroi dès le début, ça peut partir en cacahuète. L'intérêt de ce scénario-là, c'est que avant, pour moi, avant qu'ils sortent du sanatorium pour aller chercher ce bon Ebenezer, le sanatorium doit rester le lieu de tous les périls.
Il y
Et
a
moi, je me
comme
rappelle
quatre
que quand je.
cadavres. Il y a comme quatre cadavres dans le
Ouais, mais
sanatorium.
enfin, ils vont pas faire toutes les pièces une par une, c'est pas un donjon, quoi.
Bah,
Moi,
juste
je vais
un
aller
mot des
voir.
deux. Il se trouve, quand il rentre, il se trouve à une pièce, enfin, de deux cadavres.
Ouais,
Donc,
mais soit j'ai des
s'il
joueurs
rentre dans l'aile des
particulièrement
passants, il y a un cadavre.
pas soit j'ai des joueurs particulièrement pas
Ouais.
attentifs, soit je suis un maître
Ouais.
d'exception, mais moi ils ont
Ouais.
jamais été dans la pièce avec le cadavre dès
Ouais. Avec la
le
petite vieille qui leur dit, oh, n'allez pas ici, nous avons eu un petit accident. Bah, moi,
début.
ils vont direct, hein, d'habitude.
Non, moi je crois
L'oncle
que la
qui
petite vieille elle
dort,
faisait des
l'oncle qui
coquilles.
dort. Il est démembré,
Oui,
quoi.
il est en train de dormir. Enfin bon,
Ouais,
on est en train de virer, le podcast, podcast spécial sanatorium. Mais en tout cas, tout ça pour
Donc toi
dire
le
que
plus
toutes ces manières d'amener les choses, je trouve que c'est super, super
le
intéressant.
plus Yoda, donc on est d'accord, toi c'est la chose qui peut faire basculer le scénario, c'est quand même l'entrée en matière, quoi. C'est l'arrivée.
Ouais, c'est ça.
T'avais revu des trucs pour l'arrivée en bateau?
Non, tout ce que je la façon dont je démarre, c'est celle que je vous ai annoncée tout à l'heure là.
D'accord. Et juste pour une question, parce que moi je le faisais, tu lui donnais un accent, un caractère particulier à Ebenezer ou pas?
Ouais, j'ai essayé plusieurs trucs. J'ai fini à faire l'Irlandais un peu ravagé par l'alcool.
Ouais, c'est pas mal ça.
Ça passe bien parce qu'au final, ça les met vachement à l'aise.
Ouais, puis
Et puis,
moi j'ai
ouais.
fait des trucs un peu rigolards, du style, tu sais, le type qui se retourne vers eux et en leur racontant un truc, qui lâche la barre et sans qu'il la voie, la barre se met à tourner, tu sais. Et puis le bateau change un peu d'axe et hop,
Ouais.
il se retourne, il reprend la barre où elle est.
Ah, excellent.
Et tu sais, t'as pas. Et moi, je me rappelle, les gens, ils étaient là. Excusez, monsieur, 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 on va pas droit. Monsieur, monsieur. Et tu sais, le mec, il se retourne et il dit, hein? Qu'est-ce qu'ils veulent piétendre là? Marin d'eau douce! Tu sais, puis
Ouais,
là,
c'est
il vient
pas
de se
mal.
retourner, puis t'as la barre qui tourne. Donc, moi, j'aimais. Enfin, comme souvent, quand on dit que l'horreur est très très liée à la rigolade, j'avais mis une super ambiance et Ebenezer, c'était un gros déconneur. Ce qui fait que quand il meurt, en plus, ils sont un peu dégoûtés. Parce que, un, il était sympa. Deux, finalement, il les a amenés à bon port alors qu'il était raide torché. Donc, ça devait être, dans le fond, un bon marin. Et puis, trois, j'en fais une force de la nature. Comme ça, comme il se fait défoncer, on se dit, putain, si ce mec-là s'est fait défoncer, ils regardent tous leur carac. Ils se disent, bah putain, on va tous y passer, quoi. Mais t'as
D'ailleurs,
raison, l'intro est très importante. De ton côté, toi, de Marini, l'introduction, enfin, dans le point, je dirais, le point important à ne pas rater, ou alors à focaliser pour rendre le scénario, Nocturne pour un violon, inoubliable.
Bah pour ce scénario, c'est effectivement aussi l'ambiance quoi, au démarrage, bien évidemment,
Lancement.
puisque sans vouloir trop en révéler non plus.
Bon, on a tout lâché sur le sanatorium.
Ouais, mais les joueurs se retrouvent tout de suite dans un Arkham décalé, qui n'a plus rien à voir avec l'Arkham réel auquel ils vont être confrontés par la suite. Et voilà, il faut arriver à donner un sentiment d'étrangeté, mais sans qu'en même temps ils se lancent à vouloir faire les bourrins.
D'accord.
Et voilà. Et en général, c'est un peu ça qui se passe. Mais on va dire, c'est plutôt pour les rôlistes, ceux qui ont déjà joué des jeux de rôle, mais qui n'ont jamais joué l'appel. Et en fait, ils se retrouvent à un moment donné dans une situation flippante. Et le premier réflexe qu'ils ont envie de dire, c'est, attends, mais je sors mon gun, quoi, et là, je tire. Et tu es à 20 minutes du début du scénar. Et c'est là où tu dis, mais t'es en vacances, t'es sorti sans. Et alors là, ils sont si. Donc,
Avec un
oui,
sourire
tu
narratif
l'as
sur
bien
les lèvres.
demandé, tu l'as demandé, tes bagages, mais tu l'as laissé à l'hôtel.
Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention, mais contrairement au sanatorium, c'est un endroit où il faut pas se rater non plus.
Voilà, en plus, d'autant que bah, y a des petits conseils sur TOC, il y a quelques informations qu'il faut donner aussi absolument, parce que sinon derrière, les joueurs se retrouvent secs et ils savent pas
Tu les avais dit, je
sur quoi
crois, ouais,
partir.
dans les
Ouais.
commentaires, ouais.
Voilà, mais bon, enfin après, tous les autres gardiens qui avaient fait jouer avaient eu cette remarque-là également, donc ça se voit, je pense que ça se voit assez vite à la lecture du scénar. Et je pense que
D'accord.
cette partie d'introduction, justement, effectivement, là, ça, par contre, ça plonge tout de suite les joueurs, contrairement au sanatorium, ça plonge tout de suite les joueurs immédiatement dans une expérience extrêmement étrange. Et
Ça
Jacques, après.
peut ça peut être une bonne idée d'introduire cette partie de la Paléo-Toulou, finalement, à des, ce que tu dis, des anciens rôlistes qui se disent ah, la Paléo-Toulou, on sait, c'est la vieille tante, machin et tout ça. Là, ça peut être une façon un peu décalée de les lancer là-dedans.
Tout à fait, parce que là, il n'y a pas à se poser de questions. Y a... On leur explique juste, vous êtes en vacances, ils se présentent entre eux, puis on dit, vous êtes en train de vous balader, et boum, ça bascule immédiatement. Et du coup, bah, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de, d'investiguer.
D'accord, ouais. De ton côté, toi, oui. Non,
non, non, je comprenais juste que c'était pas mal comme approche.
De ton côté, toi, Steve, le gros point positif à ne pas rater ou qui fait que le scénario peut passer de l'excellent au nullissime.
Ouais, alors je vais devoir un petit peu rentrer dans le spoiler, mais je pense qu'on s'adresse à DMJ. Dans la dernière partie du scénario, qui est très court, hein, le personnage, enfin le joueur va rencontrer un PNJ vraiment particulier, une goule qui est dans un cimetière. Et ce moment est assez important. Le moment où ils tombent nez à nez avec cette goule, pourquoi ? Parce que toute personne qui a déjà fait du JDR ou toute personne qui n'en a pas fait mais qui se trouve dans une circonstance similaire, je pense, inspirée par les films, il allait sortir son gun et arroser la goule ou bien lui balancer sa lampe torche au visage ou appeler la police. Il y a un moment vraiment très riche du scénario au moment de cette rencontre, c'est que la goule va s'adresser à l'investigateur et va commencer à entamer une conversation mondaine avec lui. Et je pense que ce moment est vraiment génial. Parce qu'on présente quelque chose de typique dans le monde de Lovecraft, c'est qu'il est toujours très difficile de comprendre les motivations des entités, et on n'est pas dans une présentation manichéenne des choses, à savoir le bien, le mal. Tout le monde a les motivations.
Je suis d'accord sur ce point-là, mais par contre, tu trouves pas que ça fausse un peu les données, parce que le prochain scénario rencontre des ghouls, s'ils vont leur taper la causette et s'ils se font défoncer, ils vont dire.
Cette conversation, c'est pas seulement un échange verbal. Je veux dire, quand la personne va se rapprocher, il va voir à quel point cette goule est hideuse, qu'elle sent le cadavre et qu'elle parle de ses amis peu civilisés qui habitent sous terre. Je pense qu'il va quand même se mettre être un peu plus sur ses gardes, d'autant que la goule va, enfin, à la moindre proposition, à la moindre question, la goule va proposer à l'investigateur d'aller visiter son petit monde sous la terre et d'aller regarder ses livres, ou, voilà, d'aller rencontrer ses amis. Et là-dessus, on peut terminer sur un petit fondu enchaîné où la personne descend dans la tombe. Et quelques minutes plus tard, on entend juste un cri horrible provenir du sous-sol. Et là, l'investigateur ne remonte jamais.
Par contre, donc le point important, parce que je l'ai fait jouer pas mal de fois aussi, le point important, je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est que finalement, il faut présenter cette goule comme une goule particulière, une sorte de passeur. Mmh. Une sorte de point d'ancrage entre notre monde et le monde souterrain, tout à fait. Parce que moi, je me rappelle l'avoir décrit de façon quasi humaine, c'est-à-dire un peu voûté, les bras un peu trop longs, mais pas genre une abomination avec des morceaux de terre et avec une pierre tombale sous le bras, quoi.
Ouais, pas comme sur la gravure, en fait.
Voilà, de loin, ça peut être quelqu'un qui est un peu voûté, qui est en train de bouquiner, finalement.
Ou la lunette.
Voilà, c'est assis sur une pierre tombale. Et puis finalement, c'est en se rapprochant tout à fait les odeurs, parce qu'il faut. En même temps, c'est une bonne idée parce que les ghouls dans la Paléo-Toulou sont pas forcément toujours méchantes. Et on peut pas spoiler, mais il y a pas mal de scénarios ou de campagnes qui en parlent. Et d'un autre côté, c'est vrai que ça peut être aussi, comme on disait pour De Marini, ça peut être une super introduction pour des joueurs qui ont des idées préconçues sur la Paléo-Toulou. Et qui voilà, t'as défoncé la goule, bon bah voilà, bah maintenant t'as la moitié du cimetière qui sort, mais t'as raté le scénar, quoi. Donc ça peut être aussi pour des nouveaux arrivants dans la Paléo-Toulou, mais qui jouent déjà au jeu de rôle, ça peut être un scénario sanction, en disant voilà, tu vois, maintenant on peut pas toujours résoudre les choses comme ça. C'est une bonne idée de ce point de vue là, ouais, tout à fait. Et puis en plus, c'est vrai qu'il faut toujours se rappeler que pour ton exemple, le mec est tout seul. Et ça, un joueur tout seul, perso, moi j'ai déjà fait jouer, ça fait beaucoup moins le con qu'un groupe. Hein.
Ouais, complètement.
Parce que quand t'es en face à face avec la goule, t'es vraiment en face à face, quoi.
Alors,
fait de montrer mes amis. Non, je suis seul, on attend que j'ai des amis moi aussi. D'accord. Donc ça c'est intéressant. C'était juste pour savoir, parce que vous avez l'air d'avoir fait jouer vos scénars vachement de fois. Moi de mon côté j'ai dû lui faire jouer 4-5 fois je pense, Visite aux Zoo. De ton côté Steve, tu l'as fait jouer combien de fois?
Ah celui-là, une demi-douzaine, 6 ou 7
fois. D'accord, ouais donc quand même ouais. De ton côté, De Marini?
Moi je l'ai fait jouer 7 ou 8 fois déjà.
Ah la vache, oui.
Et c'était, ouais, puis à la fois avec des tables, avec de joueurs, de gens avec qui j'ai continué, mais aussi en convention.
D'accord.
En one shot. Ouais.
Et Yoda, toi, de ton côté?
Plus de 10, je dirais 11 ou 12.
Et alors, si je vous pose cette question, c'est à dessein, c'est-à-dire que finalement, à chaque fois, ce sont des scénarios assez courts. Ça tient sur une séance de 4 heures, à peu près.
Ouais, Yoda. C'est ça.
Ouais,
c'est ça. Moi, j'ai traîné jusqu'à 6 heures, mais pas plus.
Ouais, d'accord. Ouais pareil. C'est vrai qu'il faut, c'est qu'on va dire, mais il vaut mieux se baser sur en plus la première fois si ça prend pas. Si vous voulez être emballé sur un scénario de 8 heures, plutôt ça va être long. Quoi. Mais c'est en plus c'est assez intéressant parce que vous, auditeurs, vous ne le savez pas, mais en réalité, Yoda a balancé ce sujet au début et on a vraiment sorti chacun un scénario vraiment différent. Parce que le sanatorium, c'est voilà, une maison hantée, hein, en résumant. La course aux documents, c'est une enquête sur une goule. Nocturne pour un violon, c'est plus difficile à définir. Moi, je trouve que c'est le plus compliqué. C'est une sorte de voyage un peu dans une Arkham alternative.
Et, c'est une histoire un petit peu satanique, mais...
Voilà. Des Marini.
C'est pas l'essentiel pour les joueurs.
Et moi, de mon côté, c'est une enquête sur une bête disparition. Donc, c'est vrai que c'est assez marrant. C'est que finalement, c'est là où on voit la richesse finalement de l'appel de Cthulhu, c'est que on peut débuter par nombre de scénars. C'est vrai que ça serait intéressant de les mettre tous suite au sujet où les gens nous demandent quel scénario pour débuter. Et j'ai une petite question à vous poser par contre. Soit ça vous est déjà arrivé, soit vous vous êtes dit putain si ça m'est arrivé, c'est genre le scénario que vous avez préparé et qui est vraiment pas fait pour des débutants, c'est-à-dire que c'est l'apocalypse assuré. Alors moi je vais vous dire lequel c'est No Man's Land. Celui de Cassius Belli.
Pareil.
Parce que il est excessivement film d'horreur et avec des joueurs qui s'y connaissent pas trop et tout ça. Voilà, c'est la boucherie, ils vont penser que c'est des batailles rangées à chaque fois à l'appel de Cthulhu et qu'il y a forcément... c'est un très bon scénar, hein. Attention, hein. Je l'ai fait jouer pas mal de fois avec des joueurs et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais comme scénario d'introduction, ça marche carrément pas, quoi. C'est vraiment Herbert West, c'est les effets spéciaux pourris, avec le mec qui vous regarde avec la seringue à côté. Alors, vous voulez que je fasse une expérience? Oh, c'est peut-être moi qui le fais mal jouer, hein. Il y a peut-être qui vont me dire que c'est un super scénario d'intro, mais pour moi c'est un des scénarios où j'ai déjà préparé et je me suis dit putain, mais heureusement je l'ai pas fait jouer parce que ça aurait été un carnage. De ton côté, toi, De Marini, t'en as un comme ça, un genre où il ne faut surtout pas, où tu le déconseillerais, je dirais, à l'initiation?
Non, j'ai pas d'exemple flagrant.
Vas-y.
Donc après c'est plus, après j'ai surtout des campagnes en tête, donc après il y a toujours un scénar pour introduire quoi.
D'accord.
Et après au fur et à mesure la sauce monte de plus en plus, mais les joueurs sont aguerris.
Et donc t'aurais une campagne comme ça qui en intro avec le premier scénar, ce serait super délicat, non? Ou c'est vrai, surtout c'est plutôt le principe de la campagne en lui-même.
Oui. Je pense que c'est plus la préparation ou la manière dont, par exemple, les ombres de Yoxotot. Mais c'est aussi la manière dont le truc est monté, quoi. Il faut vraiment, je pense, le préparer. Ouais, parce qu'il est pourri.
C'est-à-dire que comme première campagne, tu veux dire, les ombres de Yoxotot, c'est vraiment pas. C'est con parce que le premier scénario, lui, par contre, est super bien. Moi je trouve perso assez dans un classique, c'est un classique, mais je trouve vachement bien. Mais c'est vrai que première expérience campagnarde, on va dire, c'est vraiment
alors il y avait un autre truc, par exemple l'aube dorée.
Ouais.
Pour l'intro c'est très bien, et le premier scénario est vraiment fait pour ça, et c'est l'objectif. En plus c'est l'Angleterre victorienne, donc on se dit les gens connaissent pas du tout. et les sociétés secrètes de l'Angleterre. Donc là, il y a tout un background, tout un tas de choses à amener, et le scénar d'introduction est vraiment très basique. Et il y a très, en plus, il présente une, c'est pas du vrai mythe de Cthulhu, c'est aussi décalé, puisque ça parle un peu d'astral, de choses comme ça. Donc ça, je dirais que ça parle peut-être plus parce que c'est plus près d'éléments mystiques ou on va dire à la limite l'astrologie que tout le monde connaît un petit peu.
D'accord, et puis bon, le gros intérêt c'est que finalement tu as le support du supplément qui est avec toi quoi, pour te décrire, d'accord. De ton côté Yoda, est-ce que tu as un scénario kata que tu as soit fait jouer en intro et qui était tout moisi finalement au bout du compte, ou alors une idée de scénario que tu as lu?
Ouais, non, j'ai pas de gros souvenirs. J'ai voulu, oui, il y a eu un scénario que j'ai cru simple, mais je me suis bien croûté, mais j'avais pas réfléchi longtemps non plus. Donc, une grosse faille, une grosse surprise, non.
Non.
Sans réflexion, non. Non, non, non.
C'est-à-dire que t'as toujours réussi à, finalement, à la lecture, à lisser si le scénario était fait pour l'intro.
Pour l'intro, oui. Par contre, pour le temps, je suis très, 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 très pas bon.
Ouais.
Sur le temps de jeu. Là, je peux déraper, je peux penser que ça sera fait en 3 heures, puis au bout de 8 heures, on y est toujours. Quoi.
Vous n'avez pas le jeu de rôle, on peut faire ça sur un coin de table en 2 heures.
Typiquement, les essais que j'ai voulu faire, c'est un super simple, en démonstration, en magasin de jeu de rôle. Donc, voilà, t'as 2 heures. Jamais, jamais un gars ne l'a fini avec moi. Jamais. Je vais envoyer un mail à la fin pour l'expliquer quand ça se terminait. La tristesse, quand même.
On se revoit la semaine prochaine. C'est le mec du magasin qui devait être content. Tu fidélisais les visiteurs. Okay. Et de ton côté, Steve, t'as un mauvais exemple?
Moi, c'était No Man's Land, mais la version officielle.
Oh putain, c'est
un intro. Ah ouais.
Parce que,
mais je l'ai pas fait, je l'ai pas fait à dessin en intro, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des joueurs débutants qui se greffaient à la partie de gens qui avaient un peu plus de bouteilles. Et en général, les gens aiment bien, mais souvent ça termine très très mal et assez vite.
Ouais, puis en plus c'est
rude. Ouais.
T'as un vrai dosage de roleplay parce que enfin t'es quand même super armé et puis c'est vrai que c'est un peu délicat. Enfin, moi je vois, j'ai fait une partie encore récemment, de trouver un scénar qui soit court, sympa et mélangeant, je dirais, facilité d'amener des joueurs nouveaux ou alors des joueurs débutants ou alors des joueurs qu'on connaît pas. C'est pas coton quoi. Bon, je pense qu'on a tous fait jouer la maison Corbit, non?
Ah, j'ai fait rien.
Parce que c'était quand même le scénario d'introduction qui nous a amené. Yoda, tu l'as déjà fait jouer?
Ah ouais, mais c'est le classique.
De Marini, mais de ton côté aussi, tu l'as fait jouer?
Oui, mais je le supporte plus.
C'est vrai. Et toi, Steve?
Non, jamais. J'y ai joué, mais je ne l'ai pas fait jouer.
Tu l'as pas fait jouer, d'accord. Et tiens, bah, c'est intéressant, ton souvenir en tant que joueur, enfin, ça remonte peut-être, mais c'était un... Un scénario comment? Enfin, plutôt en point de vue intro, c'était...
C'était atroce.
C'est vrai.
Le gardien n'était absolument pas du sien pour mettre de l'ambiance. On a fait ça dans un intercours... je crois que c'était entre midi et deux au lycée à l'époque. Et il était très pressé qu'on arrive à la fin, donc vers la fin... Il se piquait en truc dirigiste. Oui, bon, alors toi, tu vas voir la police. Quoi? Non, mais je ne vais pas voir la police. Si, tu vas... C'était atroce. Atroce. J'y suis jamais revenu.
Parce que c'est vrai que finalement, c'est pas vraiment facile en intro. Parce que il y a quand même une enquête où les joueurs peuvent se balader. Ils peuvent rentrer et sortir de la maison. Il faut réussir à faire des coups foireux en les planquant à la Gérard Majax, les murs qui bougent et tout ça, genre à mi-temps et tout. Ouais, voilà, finalement, ceux qu'on a cités, je trouve, sont beaucoup plus faits pour du débutant, quoi, pour initier, quoi. C'est vrai que rien que les unités de lieu ou de temps ou de personnes autour, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer que des joueurs qui peuvent finalement se balader et faire des recherches à la bibliothèque et tout ça, quoi. Si on regarde bien, nos scénarios, ils sont assez dirigistes et puis assez cadrés, quoi. Donc,
Ils sont longs.
Mais alors, ils peuvent être longs.
Pour les débutants, c'est chaud.
Ouais. Ouais. C'est... Je pense que le plus court, ça doit être la course au document, je pense. C'est,
ça 1h30, 2h.
Ouais, voilà. Ça, ça peut tenir rapidement. Moi, le mien, et le mien, enfin, je dirais que l'intérêt, moi, d'une visite au zoo, c'est que tu peux faire s'accélérer les choses. Parce que comme c'est le gardien qui va gérer le déclenchement des événements qui vont arriver dans les mains des joueurs, je suis pas obligé d'attendre qu'ils aillent enquêter dans la bibliothèque Schmurtz pour leur filer l'info. Je peux provoquer la chose.
Ouais.
Donc à ce niveau-là, c'est pour ça que je trouve que c'est un scénario où tu restes quand même pas mal en maîtrise, quoi. Et c'est ce qu'il faut pour. Mais c'est vrai, je suis pas sûr que maintenant, avec le recul, je choisis Visite aux Zoos, mais je suis pas sûr que quand j'étais débutant gardien, j'aurais tout de suite décelé que c'était lui qu'il me fallait. Je pense que j'ai des jeux des grosses daubes infâmes pour initier mes joueurs, mais je me rappelle plus. Il y avait les anciens, le secret de Castro Negro, ou alors je sais plus trop quoi, là, les trucs dans les anciens suppléments de l'appel. Avez-vous d'autres choses à rajouter, messieurs, au sujet de ces quatre scénarios superbes que nous avons complètement déflorés et que les joueurs qui ne pourront plus jouer?
Peut-être envie de proposer un petit pitch de chaque scénario pour que les gens se fassent une toute petite idée de l'histoire.
Ah ouais, ouais, tiens, une accroche à la Del Toro là, une bande annonce. Une bande annonce avec une grosse voix d'un mec qui a un cancer de la gorge là.
Alors,
Yoda, tu nous fais le pitch? C'est l'accroche de ton scénario?
C'est la merde. Les joueurs sont gentiment invités en vacances par un oncle, démarrage ultra classique de l'appel. Et ils partent, bon, là, pour une île qui a au sud-ouest du Royaume-Uni.
D'accord.
Point. C'est tout. Ils ont qu'à préparer leur baluchon et puis ils partent en vacances une semaine. Tout ira bien.
Tout ira bien. Je vais bien. De ton côté, De Marini, le pitch?
Là, c'est la petite bande d'investigateurs qui part en vacances pour profiter de la fin de l'hiver et découvrir Arkham, et qui finalement, au lieu de découvrir l'Arkham touristique, va découvrir l'Arkham mystique.
Oh, joli. Oh. Touristique, mystique, bien. De ton côté, Steve?
C'est un homme qui vous engage pour enquêter sur la disparition de livres dans la maison de son oncle dont il a hérité récemment.
ça fait hyper standard quand tu dis comme ça.
Mais c'est hyper standard.
Mais rien que ça, c'est super louche en fait.
Ouais. Déjà, ouais, des livres disparus. Si tu dis manquant à la place, des livres manquants. Moi, pour le pitch, donc une visite au zoo. C'est un repas, tout ce qu'il y a de plus banal, dans un appartement cossu d'un joli quartier parisien, pas très loin du zoo de Vincennes. Une connaissance qui vous invitait pour manger. La soirée a plutôt bien débuté, et elle finira mal.
Viens
manger. Bon, bah, je pense que c'est pas mal. J'espère que ça... Je sais pas, vous avez des choses à rajouter, messieurs, ou non? On a fait le tour.
Mais bon.
Ça a l'air d'être bon.
Ouais, puis de toute façon, vous qui écoutez, si vous avez suivi nos conseils et si ça ne marche absolument pas, n'hésitez pas à vous faire les retours, même si ça marche hein, aussi, c'est intéressant parce que en plus on en rigole, mais c'est très important la première partie, surtout pour les joueurs, le gardien à la limite. Enfin, je veux dire, c'est qu'une première partie de gardien, si vos joueurs sont expérimentés, ils vous pardonneront pas mal de choses. Par contre, c'est vrai que pour des joueurs, leur première partie à l'appel de Toulouse, c'est un peu là que vous allez leur donner. Gérer les bases, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et c'est vrai qu'il faut faire très attention, et je dirais que moi le conseil que je donnerais globalement, c'est qu'il faut qu'à la lecture du scénario vous soyez super à l'aise, quoi. Parce que moi je me souviens, même au début ou même maintenant, les scénarios où à la lecture je me sens pas à l'aise, je sens qu'il y a des endroits où ça va être difficile, ou ben non. Alors en l'occurrence pas du tout quand on débute, mais il faut vraiment que le scénario, c'est pour ça qu'il faut que ce soit court, faut que vous ayez tout en tête. Faut pas que vous ayez à relire l'intrigue pendant la partie pour vous dire ah merde c'est vrai ouais, Ebenezer faut que je le tue putain merde le con. Des trucs comme ça et enfin globalement voilà on vous a fait remonter de quatre scénarios D'ailleurs, c'est vrai qu'on s'est aperçu que quand on avait détaillé l'autre fois, il y a longtemps, mais dans un podcast avec Poulf, on avait détaillé les manteaux noirs, il faudrait qu'on refasse du détail de scénario. Parce que là, c'est là où c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'en discutant entre gardiens qui avons maîtrisé, c'est toujours intéressant, on rajoute des petites choses et puis on explique comment on a introduit certaines scènes et tout ça. Donc bah, on espère que ça vous a donné envie, que le côté organisé puis désorganisé de ce nouveau podcast de 2013 fonctionne un peu mieux. Et que j'espère que d'un point de vue audio, ça aurait été bon. C'est... Oh merde, j'ai oublié d'enregistrer. C'est pas grave, les gars. Non, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure qu'il est, il est quand même Cendrillon plus 8. Donc, bien, on va vous remercier de votre écoute. Et surtout, on va essayer de, comme on a pu le faire, hein, Steve, dernièrement, fin 2012, avoir une bonne fréquence. Je pense que d'ailleurs, de toute façon, ce podcast risque d'être divisé en deux. Parce qu'on arrive quand même à 1h51 d'enregistrement. D'une traite, on va encore se faire engueuler. Et messieurs, je vous remercie. Je ne peux pas citer à l'heure actuelle quel sera le sujet du prochain podcast, vu qu'on ne le sait pas nous-mêmes à l'heure actuelle. Et n'hésitez pas d'ailleurs à ce sujet, si vous avez des thèmes, ou des choses qu'on voudrait qu'on traite, à part le narrativisme, bien sûr. on en fera une spéciale. C'est quoi ce bruit? Et donc, non mais si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde, on en parlait tout à l'heure avec Steve, pourquoi les rôlistes sont-ils gauchistes, ou alors pourquoi ma grand-mère fait plus peur que moi quand je fais le monstre, enfin des choses importantes quoi dans la vie d'un rôliste. N'hésitez pas.
C'est l'expérience.
Voilà, exactement. N'hésitez pas à en faire part et à nous faire vos retours dans les forums. Et puis donc sur ce, ben, on vous dit à la prochaine. Hein. Fungry les poulpes.
Hungry, Jean.
Hungry.